On leur a demandé « Quel crime avez-vous commis ? Pourquoi vous a-t-on enfermé ici ?» Et la réponse était « Parce que j'ai prié Allah, parce que j'ai lu le Coran, parce que j'ai mis le hijab, parce que je suis allé dans une mosquée, parce que je me suis renseigné sur l'histoire des Ouïghours, des choses qu'on ne peut même pas imaginer comme étant un crime dans le reste du monde. »
Enquête magistrale diffusée ce soir sur Arte. Magistrale parce que très complète, très touchante, mais surtout redoutablement précise sur la tragédie ouïghour en Chine, ou comment le Parti communiste chinois fait régner la terreur au sein de cette ethnie de l'ouest du pays, comment il procède à des arrestations de masse, des internements en camp de rééducation, comment un génocide culturel est en marche. Il ne s'agit pas d'exterminer un peuple, mais bien de lui faire oublier sa langue, son passé, son identité, pour le mettre au service des Han, ethnie dominante. En outre, le documentaire de François Reinhardt, mon invité, et de Romain Franklin, son co-auteur, accorde une place centrale au double jeu de la censure et de la propagande, l'enjeu de la médiatisation au cœur du drame ouïghour. Comment les Chinois, les coupes du monde, comment des données, des voix et des images ont fini par émerger. Comment le secret a finalement percé.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Mon père, c'était quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice. Quand on s'est dit au revoir, il a mis la tête sur mon épaule et il m'a dit « Mon fils, tu sais, on meurt tous un jour. Alors raconte ce qui t'est arrivé. » Il savait que je ne reviendrais pas. Plus tard, quand j'ai accepté l'interview d'un journaliste américain, ils ont arrêté mon père. C'était au mois d'avril 2018. Ils lui ont demandé de faire une vidéo pour faire pression sur moi. Il a refusé et ils l'ont assassiné.
Bonjour François Reinhardt.
Bonjour.
Votre co-auteur, je l'ai dit, s'appelle Romain Franklin. Tous les deux, vous êtes journaliste, tous les deux, vous avez vécu en Chine où vous avez été correspondant pour des médias occidentaux. Chine, le drame ouïghour, c'est cette masse, cette somme d'informations qui sera diffusée ce soir en première partie de soirée sur Arte, que nous avons trouvé absolument passionnant, toute mon équipe et moi-même. Si j'ai tenu à démarrer par ce témoignage, c'est qu'il faut qu'on comprenne d'où vous parlez géographiquement, François. François Reinhardt, vous ne vous êtes pas rendu au Xinjiang, cette gigantesque région qui est à l'ouest de la Chine.
Oui, c'est une région immense, effectivement, trois fois la France, très peu peuplée, assez inaccessible, et de toute façon totalement fermée aux journalistes occidentaux, et évidemment aux journalistes chinois qui ne se risqueraient surtout pas à traiter de ce sujet qui est complètement tabou en Chine. Mais pour nous, c'était hors de question de nous y rendre. On savait que l'on nous opposerait uniquement des mains devant la caméra, l'impossibilité de nous rendre où que ce soit, un contrôle permanent de la police. Donc pour nous, en fait, l'option de nous rendre là-bas n'a même pas été
évoquée. Vous faites parler à un confrère du New York Times américain qui dit de toute façon, c'est devenu un trou noir pour l'information mondiale.
Oui, ça ne s'arrange pas. Et Christopher Buckley, donc le journaliste du New York Times, qui aujourd'hui vit donc hors de Chine, a été correspondant pendant 30 ans en Chine. Il parle parfaitement chinois. C'est vraiment sa vie professionnelle s'est passée là-bas. Et donc du jour au lendemain, une fois qu'il a évoqué effectivement les questions des Ouïghours, du Xinjiang et du Covid, son visa n'a pas été renouvelé, il ne peut plus se rendre en Chine, comme à peu près tous les protagonistes de notre film. À partir du moment où ils ont parlé de ce qui se déroule en Chine, il leur a été impossible de retourner en Chine et de travailler correctement.
C'est ça. On va écouter Choreto Chour. Lui, il a quitté, vous l'avez rencontré aux États-Unis, il a quitté le Ouïghour il y a des années de cela. En 2017, il a été alerté par des connaissances. On lui a fait remonter l'information. Partout autour de nous, des gens sont arrêtés.
J'ai posé méthodiquement mes questions. J'ai demandé à chacun qui avait été arrêté dans sa famille et son voisinage. Tout le monde connaissait au moins un ou deux voisins qui avaient disparu. J'en ai donc conclu qu'il y avait des arrestations massives. Après ça, j'ai appelé la mairie d'une de ces communes. On m'a dit qu'ils avaient pour ordre d'arrêter 40% de la population. Il y a bien eu un ordre donné pour procéder à des arrestations de masse.
Voilà, ma langue a fourché, Choreto Chour et Ouïghour. Il a quitté le Xinjiang. Ma langue a fourché, j'ai interverti les deux mots. François Reinhardt, comment petit à petit le secret ouïghour a fini par percer la Grande Muraille ?
C'est effectivement la diaspora qui a l'ouïghour, c'est à peu près 1 million, d'après l'Institut Ouïghour d'Europe. Il y a à peu près 1 million d'ouïghours qui vivent en dehors de Chine. Et donc, évidemment, c'est les relations entre les coups de fil entre les familles qui a permis de lever ce coin du voile. Et Choreto Chour, effectivement, était le premier à vraiment poser des questions, donc à appeler directement les centres de détention, les districts, les mairies, pour avoir des pistes.
Je vois toujours qu'ils travaillent pour Radio Free Asia, il faut expliquer ce que c'est, parce que c'est
Asia,
totalement
oui,
diabolisé par le Parti communiste chinois.
Alors c'est un média qui a été, qui en gros a émergé dans la guerre froide, hein, et qui est spécialisé dans les pays d'Asie, qui sont soumis à des régimes dictatoriaux, donc évidemment la Chine en fait partie. Et donc ce média est effectivement est financé par le Congrès américain, donc c'est effectivement le diable pour Pékin. Et Shoray Tochour, donc, anime et le rédacteur en chef du service en ouïghour de cette radio.
Il y a aussi un anthropologue allemand qui a travaillé uniquement sur de la data, uniquement sur des données, sur des documents officiels chinois qu'il a entièrement décortiqués, et un étudiant d'origine chinoise qui, lui, a fait de la géolocalisation.
Effectivement, donc à partir du moment où Shoray Tochour a diffusé cette information, Adrien Zenz l'a repris et a commencé à chercher de son côté dans des choses extrêmement... Enfin, il a été très besogneux. Il a fouillé des appels d'offres, des demandes d'emploi, enfin des choses comme ça. Il a réussi à découvrir, en fait, qu'il y avait dans les appels d'offres des choses assez suspectes. On demandait pour des constructions, des caméras de surveillance mobile, du fil de fer barbelé. Donc il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et donc il s'est rendu compte de l'ampleur aussi des constructions qui étaient en cours au Xinjiang. Et un étudiant effectivement chinois qui vit à l'ouest du Canada et qui maintenant ne veut plus être embêté par les médias, lui a découvert simplement en se baladant sur Google Earth des constructions inhabituelles dans les endroits où a priori il ne devait pas y avoir de bâtiments de cette envergure. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit l'information s'est sue et qu'on a pu déterminer qu'il y avait des internements de masse au Xinjiang.
Alors, des internements de masse, un système carcéral qui vise à rééduquer la population. Vous avez rencontré François Reinhardt aux Pays-Bas, une femme qui est encore bouleversée par ce qu'elle a connu là-bas. On a fait pression sur sa famille pour qu'elle se rende dans l'un de ses centres, donner des cours de chinois, son témoignage.
Ils ont crié en chinois, les cours commencent. Les portes se sont ouvertes. Et les élèves ont commencé à sortir. À cet instant-là, une peur m'a envahie. J'ai commencé à trembler, j'étais terrifiée. Ils avaient des chaînes aux mains et aux pieds. Ils sortaient comme ça. En les voyant, j'étais en état de choc. Je n'arrivais pas à retrouver mon calme. Je les ai comptés, ils étaient 97. Il portait un gilet orange sur lequel était écrit un numéro. Il était interdit de les appeler par leur nom.
Voilà le témoignage de cette femme qui s'est rendue pour donner des cours de chinois. Vous l'avez rencontrée aux Pays-Bas. De toute façon, tous vos témoins, vous les avez rencontrés à l'étranger.
Oui, absolument. Ils sont très courageux parce que leur famille qui est restée au Xinjiang risque d'être effectivement la proie de la police ou des services chinois. C'est arrivé à tous, hein. Ils savent tous qu'effectivement il est arrivé quelque chose à leur famille, Shoray Tochour, dont on parlait tout à l'heure aussi. Mais sa fille avait réussi à se rendre aux Pays-Bas, donc elle a pu la rejoindre aux Pays-Bas. Et effectivement, c'est là qu'elle a commencé à témoigner. C'est la première Ouïghour, qui est d'origine kazakh, mais enfin, qui a commencé à raconter effectivement ce qui se passait là-bas, son expérience à elle, sachant qu'elle était effectivement enseignante dans les camps. Elle n'a pas été elle-même détenue. Quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait, elle a voulu vraiment alerter le monde à ce sujet.
C'est ça. Alors, vous essayez de décortiquer, finalement, ce qu'on appelle un lavage de cerveau, ou comment, à la fois, on fait régner la terreur pour tout ce qui pourrait sortir des routes tracées très précisément par le régime et échapper à la surveillance du régime chinois, mais surtout, tout ce qu'on réinsère, finalement, dans l'esprit des Ouïghours.
Oui, c'est assez curieux comme démarche. Le Parti communiste chinois, c'est en exergue à la fin du film, on dit, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Et effectivement, comment finalement rassembler un peuple autour d'un projet commun d'unité, tout en lui lavant le cerveau et en le rendant totalement soumis, en l'apeurant en permanence. C'est-à-dire que la vie quotidienne des Ouïghours, encore aujourd'hui, on peut l'imaginer, c'est uniquement de la terreur.
C'est ça, c'est de la surveillance au jour le jour. C'est des visites, jusqu'au sein de l'intimité, jusqu'au sein des appartements, jusqu'au sein des familles, parce que c'était peut-être le dernier rempart qui résistait à la surveillance du Parti communiste chinois.
Oui, oui, parce que la vie quotidienne est totalement scannée, monitorée par les services de police chinois. Mais au sein des foyers, effectivement, c'est une trouvaille du Parti communiste chinois. Ils ont créé ce qu'on appelle la semaine de l'unité ethnique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils invitent, ils ont proposé à un million de Chinois Han de se rendre dans les foyers ouïghours pour passer une semaine avec eux. Mais quand je dis une semaine, c'est au quotidien, jour et nuit, et avec un petit livret de poser des questions sur la loyauté des Ouïghours au Parti communiste chinois. Donc effectivement, s'il y a un Coran qui traîne, s'il y a la moindre allusion à Allah, s'il y a quoi que ce soit qui se passe et qui n'est pas dans les clous du régime, ben à ce moment-là, effectivement, la famille peut être menacée.
Alors c'est là où votre film est formidablement pédagogique, François Reynard, c'est-à-dire que vous racontez l'histoire de ce peuple ouïghour, de ce peuple de l'extrême ouest, de cette ethnie musulmane. Vous racontez aussi son histoire au sein de l'Empire chinois.
Oui, c'est une région qui n'a pas toujours été chinoise. Loin de là, elle l'est officiellement depuis 1884, depuis son annexion par la Chine, puis par la République populaire de Chine en 1949. Mais à deux reprises, le Xinjiang était un pays qui s'appelait le Turkestan oriental. Et c'est ce que revendiquent en fait aujourd'hui les Ouïghours, c'est de retrouver cette nation perdue. Mmh. Et il s'estime colonisé par les Chinois.
C'est ça. Il s'estime colonisé par les Chinois. Alors, de fait, Xi Jinping a très très fortement accéléré la mainmise de l'ethnie Han, donc l'ethnie de l'Est de la Chine, sur le reste du territoire.
Oui, effectivement. Alors, les Han, c'est 92% de la population. Et effectivement, la Chine a un projet d'unification.
C'est ça.
De façon à ce qu'en 2049, quand on va célébrer les 100 ans, célébrer les 100 ans de la République populaire de Chine, les Chinois ne fassent qu'un. Sauf qu'il y a 56 ethnies en Chine et que les 55 autres ne sont pas forcément d'accord pour devenir des bons Han.
Et que les Ouïghours se trouvent, alors pour le coup géographiquement, à un emplacement stratégique, crucial même pour l'avenir de la Chine.
Oui, oui, le Xinjiang, effectivement, c'est un grand désert et des montagnes, mais pas seulement, parce que la géologie est très riche. Il y a du pétrole, du charbon, du gaz, du coton. Et c'est aussi un endroit par où vont passer les futures routes de la soie. Donc c'est un lieu de passage complètement stratégique pour Xi Jinping et son projet de développement de la Chine. Donc il faut absolument sécuriser cet endroit. Et il a choisi la force pour le faire. Au lieu d'intégrer la population à ce projet, il a simplement décidé, si vous voulez, c'était un caillou dans sa chaussure, de le réduire en poussière.
Alors l'une de vos témoins raconte ce qu'elle a vécu au sein des camps d'internement.
Il m'a dit « déshabille-toi ». Je me demandais pourquoi ils me disent ça. Est-ce qu'ils vont encore me frapper? J'ai dit pourquoi et je me suis recroquevillée. Tout à coup, il s'est jeté sur moi. Il m'a giflé et il a arraché mes vêtements. Je n'avais même plus la force de protester. Ils m'ont brisé. Un autre gardien est arrivé. Pendant que deux me tenaient, je me suis évanouie, je suis tombée.
Et elle dit, un peu plus loin dans son témoignage, elle dit « je ne sais même pas ce que ces trois-là m'ont fait ». Elle n'est pas la seule.
Non, il semblerait qu'effectivement les viols et les stérilisations forcées soient de mise dans ces camps de détention. Il y a de plus en plus de témoignages accablants qui le disent. Et effectivement, c'est assez... Le but du Parti communiste chinois en faisant ça, ce n'est pas simplement de détruire le moral ou comment dire l'identité ouïghour, c'est aussi de détruire une démographie, c'est-à-dire de rendre les Ouïghours solubles dans la population Han. C'est-à-dire ils veulent moins d'enfants ouïghours tout simplement pour qu'il y ait plus d'enfants Han qui s'installent
reste la politique de l'enfant unique au Xinjiang.
Oui, ça n'était pas le cas auparavant. Mm-hmm. Ils avaient le droit d'avoir plusieurs enfants. Ce qui rendait très jaloux les Han, d'ailleurs. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils n'ont plus le droit d'avoir beaucoup d'enfants, alors que les Han peuvent en avoir plusieurs.
Et les procédés de stérilisation, c'est aussi cet anthropologue allemand, Adrian Sens, qui les a mis au jour, parce qu'il a retrouvé des documents, il a exhumé des documents officiels, où on impose des quotas chaque année en milliers de femmes ouïghours qui devraient être stérilisées.
Effectivement, il a trouvé des statistiques, des chiffres.
De
avec des objectifs de planification, de façon à réduire la population ouïghour pour que numériquement, les Han prennent le dessus.
On va écouter un universitaire chinois pro-gouvernement qui définit en réalité la nécessité d'agir pour le gouvernement chinois.
Si on compare le terrorisme à un virus, nous devons découvrir qui est porteur du virus. Nous n'allons pas les tuer, mais les placer en quarantaine. Il faut leur donner un traitement gratuit sur place pour qu'ils puissent se rétablir rapidement. Mais s'il s'agit d'un virus idéologique, il est plus difficile de savoir qui en est infecté. Que faut-il faire alors? Eh bien, il n'est pas impossible qu'on vous envoie dans un certain endroit pendant un certain temps où on vous dispensera un enseignement idéologique tout en vous formant à un travail.
Ce qu'il faut décoder, François Reynard, ce sont les deux termes de terrorisme et de séparatisme du discours chinois.
Pour Xi Jinping, ces deux termes n'en valent qu'un. Hein. C'est-à-dire que ce soit effectivement du séparatisme, de l'extrémisme religieux ou du terrorisme, pour lui c'est la même chose, c'est la même dénomination. Et donc il faut lutter à tout prix contre eux. Et effectivement, cette image, cette métaphore du virus, finalement on se rend compte qu'elle est comprise par tous les universitaires, tous les penseurs chinois sont alignés derrière leur chef d'une certaine façon, et que ce discours est totalement intégré.
C'est ça. Alors ça n'a pas toujours été le cas, c'est-à-dire que même le propre père de Xi Jinping, dans l'histoire du Parti communiste chinois, a fait partie d'une tendance inverse, c'est-à-dire d'une tendance qui favorisait les identités locales et les identités régionales face à la centralisation en fait de l'Empire chinois.
Oui, le père de Xi Jinping, Xi Jinchun, avait une vision assez différente. Effectivement, il était très ouvert sur la question des minorités. Enfin, très ouvert sur la question des minorités. Il avait une autre vision en tous les cas. James Millward, qui est notre conseiller historique pour ce film, qui est américain, le décrit avec une métaphore. C'est un peu trivial, mais je me permets quand même de la citer. La politique de Xi Jinchun, c'était une salade composée. C'est-à-dire que finalement, tous les éléments pouvaient coexister dans un.
Comme l'ex-URSS.
Exactement, c'était le principe. Avec Xi Jinping, c'est différent et c'est lié à une nouvelle théorie des minorités que Romain Franklin a découvert en travaillant.
Qui est votre co-auteur.
Le co-auteur, qui est non plus une salade composée, mais une fondue. Et je trouve que l'image est assez juste. C'est-à-dire qu'on mélange ensemble tous les ingrédients et finalement, à la fin, il n'en reste qu'un. Et c'est la majorité, c'est les RAN.
Alors vous dites aussi que le 11 septembre a fait basculer finalement la politique intérieure chinoise et sa façon de communiquer.
Oui, c'est-à-dire qu'ils ont profité en quelque sorte de ce contexte international antiterroriste pour montrer des boucs émissaires, des groupes qui... Il y a effectivement du terrorisme au Xinjiang, on ne peut pas le nier. Hein. Il y a eu vraiment des actes terroristes très graves au Xinjiang, à Kunming, dans une province proche, et à Pékin, il y a eu des morts. Donc on ne peut pas nier qu'il y ait eu des actes de terrorisme. Cependant, si vous voulez, l'image qu'on pourrait dire, c'est comme si après les événements du 13 novembre à Paris, on avait décidé de mettre sous cloche toute la ville et d'incarcérer tous les musulmans parisiens.
C'est ça, de les incarcérer, de les stériliser, de les violer, de les torturer et de les rééduquer. Merci beaucoup François Reynard. Donc,
merci,
je conseille vivement votre film Chine, le drame ouïghour, qui va être diffusé ce soir sur Arte et qui est coécrit avec Romain Franklin. Merci d'avoir été mon invité.